Inter, le 18-20.
Et c'est le téléphone sonne. La grande misère de la protection de l'enfance en Seine-Saint-Denis. C'est le titre d'une tribune publiée dans le journal Le Monde aujourd'hui et dont nous vous avons parlé sur France Inter depuis ce matin. Les juges des enfants au tribunal de Bobigny dénoncent l'état de la justice pour les mineurs en danger et ils lancent un appel au secours. Nous sommes devenus les juges de mesures fictives, écrivent ces juges des enfants. L'occasion ce soir au téléphone sonne de mieux connaître leur travail au quotidien, que ce soit à Bobigny ou ailleurs en France. Ce sont des magistrats particuliers, les juges des enfants. Ils font de la protection, mais aussi de la répression. Retirer un enfant à sa famille pour le protéger, envoyer un adolescent en prison, ce sont de lourdes responsabilités du juge des enfants. Pour en savoir plus, eh bien, appelez-nous ce soir, 01 45 24 7000. Le standard est à votre disposition. Et pour vous répondre, Thierry Barranger, bonsoir. Thierry Barranger, vous faites partie de ces magistrats qui ont fait toute leur carrière en tant que juge des enfants. Après avoir présidé le tribunal pour enfants de Nanterre, puis celui de Paris, vous êtes actuellement le président du tribunal pour enfants de Bobigny et vous êtes l'un des co-signataires de cette tribune collective. Vous avez aussi été président de l'Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille, seule association professionnelle de juges des enfants, et vous faites toujours partie de son comité de direction. Magali Lavie-Badi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes juge des enfants au tribunal pour enfants de Bobigny, jeune magistrate, également co-signataire de cette tribune collective qui est parue dans Le Monde. Et puis avec nous, Nathalie Bouillet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes éducatrice de formation, directrice d'un service de l'Association vers la vie pour l'éducation des jeunes, c'est en Seine-Saint-Denis. Et puis à mes côtés, bien sûr, Sophie Parmentier du service police-justice de la rédaction de France Inter. Premier appel en ligne avec nous, c'est Pierre qui est avec nous. Bonsoir Pierre.
Bonsoir.
Vous vouliez intervenir, témoigner, poser des questions à nos invités. Eh bien, c'est à vous maintenant.
Alors voilà, je travaille dans un service dans lequel il y a des enquêteurs et des enquêtrices sociaux pour le juge aux affaires familiales, mais qui pourrait l'être aussi pour le juge des enfants. Et en 2009, nous avons été très heureux de voir le projet d'un pôle enfance au sein des tribunaux qui ferait collaborer le juge des enfants et le juge des affaires familiales afin que leurs décisions soient mieux articulées, tiennent mieux, prennent en compte mieux les cas spécifiques des enfants. Oui. Ce pôle enfance n'a pas vu le jour, à ma connaissance. Il n'existe, avec un décret de 2009, qu'une relation qui s'établit entre le juge familial et des affaires familiales et le juge des tutelles. Or, vu le type d'enquête qui arrive dans notre service, il est tout à fait légitime de penser que ces enfants, qui sont donc des enfants de famille qui se séparent dans un contexte très difficile, des fois des séparations violentes, ressortent du juge des enfants. Et pour nous, même plus de façon plus efficace, le pôle enfance nous semblerait convenir pour traiter de façon sociale et adaptée l'ensemble de ces situations. Et on note même une différence de moyens assez forte, puisque pour les enquêtes sociales qui dépendent du juge aux affaires familiales, elles sont rémunérées environ 600 euros pour un enquêteur, alors que pour le juge des enfants, ce sont des enquêtes collectives qui sont rémunérées 3000 euros. Vous voyez, il y a une différence de moyens qui permet moins d'approfondir et de tenir compte.
Bien sûr, ce témoignage de Pierre, réaction de Thierry Barranger, je rappelle, qui est le président du tribunal pour enfants de Bobigny.
Oui, je ne rentrerai pas dans les considérations financières, parce que d'abord, je ne suis pas au courant de ces différences. Par contre, en effet, à un moment, on n'a pas parlé d'un pôle enfance, on a parlé d'un pôle de la famille. Et puis, il y a eu donc une réflexion par rapport à ça, et il est apparu que l'approche du juge des enfants était différente de l'approche du juge aux affaires familiales, puisque le juge aux affaires familiales s'occupe de trancher par rapport à deux adultes, que sont les parents. Alors, bien entendu, ça a des conséquences sur les enfants, mais le juge des enfants, lui, il est là pour faire cesser un danger. C'est pas du tout la même approche. Il est pas là pour donner raison à l'un contre l'autre. Il est là pour faire cesser un danger, que le danger soit subi par un enfant ou que le danger soit donné par un autre enfant qui peut être un jeune délinquant. Donc les logiques ne sont pas les mêmes et c'est pour ça que ce pôle de la famille ne s'est pas fait. Par contre, il y a une articulation qui se fait entre le juge aux affaires familiales et le juge des enfants, si nécessaire, et notamment dans des situations extrêmement complexes où le juge des enfants a beaucoup plus de moyens que le juge d'affaires familiales pour travailler les suites d'un divorce ou les suites d'une séparation.
Nombreuses questions et nombreux témoignages sur le site de l'émission. Florence à Moulins nous écrit « Je suis directrice adjointe d'un service de protection de l'enfance. Chaque travailleur social doit s'occuper d'à peu près 35 enfants. On n'a plus les moyens d'assurer nos missions correctement. » Magali Lavibadi, jeune juge des enfants au tribunal de Bobigny, vous êtes étonnée par ce témoignage ou c'est quelque chose de très courant?
Non, je ne suis pas étonnée. Effectivement, je pense que les éducateurs des services qui s'occupent de la protection de l'enfance, du secteur associatif, ont effectivement énormément de familles à prendre en charge. Et chaque éducateur ayant nombre d'enfants à s'occuper ne peut pas correctement effectuer la mission qui est la sienne. Mais je pense que Nathalie Bouillet pourra un petit peu plus répondre sur cette question, puisqu'elle travaille au quotidien avec ses éducateurs et elle connaît leurs difficultés.
Nathalie Bouillet, je rappelle, éducatrice de formation, directrice d'un service de l'association Vers la vie pour l'éducation des jeunes, c'est en Seine-Saint-Denis.
Oui, alors c'est vrai, il se trouve qu'en Seine-Saint-Denis, on a un quota théorique d'enfants par travailleur social qui est de 25-26, mais dans la réalité, on est plutôt autour de 30 et 32 enfants par travailleur social. C'est une réalité en effet, ce qui signifie une rencontre par mois pour chaque enfant par un éducateur.
Et ouais. Qu'est-ce que vous faites avec ces enfants ? Quel est votre travail? Quels sont les problèmes que vous affrontez le plus souvent, que vous devez régler avec ces enfants qui ont des problèmes?
Alors, on travaille en direction de l'enfant, mais avec ses parents. Oui. C'est toujours une double intervention, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on fait auprès de l'enfant lui-même. Lui laisser la possibilité de s'exprimer sur ce qu'il a pu vivre dans son histoire d'enfant difficile et de ce qu'il vit aujourd'hui. Voilà, donc il y a tout ce travail-là auprès de l'enfant lui-même, par le biais d'activités, de loisirs, etc. Parce que la parole d'enfants qui ont vécu des choses difficiles est parfois compliquée à advenir pour des enfants qui parfois ont eu à dire ce qu'ils avaient eu à vivre. Ce sont des enfants dont la parole est souvent verrouillée. Voilà. Et il y a un travail en direction des parents. Et le gros du travail, c'est vraiment d'aller aider des parents à prendre conscience et des besoins de leur enfant et des difficultés qu'ils traversent et de ce qu'ils doivent mettre en place en tant que parents pour venir prendre mieux soin de leur enfant.
Si j'ai bien lu votre tribune, Thierry Barranger, vous estimez que des personnalités comme Nathalie Bouillet, ces personnalités ne sont pas suffisantes pour mettre en pratique, pour faire votre travail. Une fois que vous avez prononcé des décisions, après il faut les appliquer et vous manquez de travailleurs, de personnes pour les appliquer.
C'est pas que les services sont pas assez suffisants, c'est qu'en fait ils ont pas les moyens de prendre les mesures immédiatement après qu'elles soient ordonnées.
Expliquez-nous.
Les moyens, c'est, mais ça, je pense que c'est plutôt Nathalie Bouillet qui pourra répondre. Les moyens, c'est que les services éducatifs aient assez de travailleurs sociaux pour pouvoir prendre les mesures. Or, on est dans un département où c'est, de ce point de vue-là, assez compliqué, puisqu'il y a des difficultés, on l'explique dans notre tribune libre, des difficultés de recrutement et d'autres difficultés par rapport à cette question.
C'est-à-dire que si on veut effectuer un travail...
Nathalie Bouillet, je mets les sous-titres, que les voix se succèdent, qu'on puisse bien suivre.
Si on veut effectuer un travail de qualité auprès de parents et d'enfants, on ne peut pas augmenter considérablement le quota de chaque éducateur. C'est-à-dire que si un éducateur avait 50 enfants à prendre en charge, ça ne lui permettrait pas de rencontrer l'enfant et sa famille régulièrement. Du coup, effectivement, le nombre est limité et donc il faudrait, pour absorber cette fameuse liste d'attente, il faudrait en effet qu'il y ait des créations de postes d'éducateurs supplémentaires.
Sophie Parmentier du service police-justice de la rédaction de France Inter.
Je pense que ce qu'il faut rappeler, c'est que dans cette tribune, qui est un texte très posé des 15 juges des enfants de Bobigny, c'est une tribune collective, c'est très rare qu'il y ait comme ça des signatures collectives. Ils sont tous passionnés, donc deux d'entre eux sont devant nous. Il faut rappeler, et ils le disent, qu'ils sont à la fois là pour les mineurs délinquants qu'ils peuvent condamner et pour les enfants en danger qu'ils protègent. Et pour les mineurs délinquants comme pour les enfants en danger, les enfants victimes, eh bien les mesures que prennent ces juges en audience dans leur cabinet, elles sont cruciales. Et les mesures de protection qui nécessitent que des éducateurs prennent en charge ces enfants, eh bien ce sont ces mesures qui, dans la majorité des cas, de beaucoup de cas, ne peuvent plus être appliquées par manque de moyens. Alors, oui. Il faut dire aussi que dans les situations de maltraitance les plus graves, eh bien il y a toujours un placement immédiat qui se fait. Je pense que Thierry Barranger ou Magali Lavibadi peuvent confirmer ça, même en Seine-Saint-Denis. C'est pour les autres situations où c'est plus difficile et plus préoccupant, mais on risque d'aboutir à des drames, en fait.
Thierry Barranger.
Oui, je partage ce que vient de dire Sophie Parmentier, mais la situation est plus complexe, parce que ce qu'on dit aussi, c'est que comme les mesures ne sont pas prises en compte dans des délais raisonnables, finalement, ils nous reviennent en boomerang par des placements, puisque la situation continue à se dégrader, et donc ça se termine par un placement en urgence par le procureur de la République, et on peut considérer que ces placements en urgence sont quand même des choses extrêmement violentes. Un placement, c'est un retrait d'enfant, en urgence, c'est-à-dire pas préparé, dans des conditions de crise. Et de ce point de vue-là, il est là le problème. C'est qu'en effet, il y a une réponse qui sera immédiate par rapport à un placement. Mais ce placement aurait pu être évité si le travail d'accompagnement avec la famille avait pu se faire.
Alors des questions d'auditeurs. Un auditeur il s'appelle Clément, il a lu votre tribune publiée dans Le Monde. Et vous écrivez, Clément l'a noté, les jugements pénaux sont notifiés dans des délais d'environ un an qui leur ôtent véritablement tout sens. La question de Clément, est-ce que ça veut dire que lorsque vous condamnez, la peine n'est pas exécutée? Thierry Barranger.
Alors, en réalité...
C'est la réponse de Magali Lavibadi, qui est juge des enfants au tribunal de Bobigny.
En réalité, ce qui est important de préciser sur ce point-là, c'est que ça va dépendre de la nature de la peine. Je pense que peut-être ce qui interroge cet auditeur, c'est de savoir si les personnes, enfin les mineurs qui sont condamnés à des peines de prison, vont en prison immédiatement ou non.
Alors, la réponse ?
Alors, quand le juge des enfants décerne un mandat de dépôt, oui, effectivement, en ce qui concerne la prison, c'est immédiat. En revanche, c'est pour toutes les peines alternatives à la détention que se pose la question de l'exécution du jugement. Je peux donner un exemple concret. Par exemple, un travail d'intérêt général. Nous, juges des enfants, nous jugeons les mineurs délinquants dans un délai que nous espérons être raisonnable, même si parfois il peut être long. Et ensuite, ce jugement va être notifié, donc exécuté, plus d'un an après. Et si on dit que ça ôte son sens au jugement, c'est parce que c'est difficile à entendre pour tout le monde, et le mineur qui a été condamné et les parties civiles, donc les victimes, puisque c'est plus d'un an après la condamnation que finalement la personne va effectuer sa peine.
Olivier à Lille est avec nous. Bonsoir Olivier.
Oui, bonsoir. Je suis travailleur social dans le département du Nord, donc agent de la collectivité du département du Nord. Et donc la tribune des juges pour enfants de Bobigny, elle fait vraiment écho chez nous, puisque dans le département du Nord, où il y a entre 10 000 et 11 000 enfants placés, qui est un gros département en matière de protection de l'enfance, on n'a plus les moyens à l'aide sociale à l'enfance, donc le service du département, de prendre en charge les enfants, notamment les décisions des juges. Beaucoup de juges prennent des décisions de mise en sécurité des enfants dans le cadre de placement, que ce soit en urgence par le parquet, comme vient d'expliquer monsieur le juge il y a deux minutes, ou bien que ce soit des juges pour enfants dans le cadre de situation déjà connue des services. Et on a des enfants qui aujourd'hui se retrouvent sans structure d'accueil, parce que le département, depuis 3 ans, fait des économies sur l'aide sociale à l'enfance. Alors, c'est très concret, hein. Il y a eu 700 suppressions de places en foyer et en maison de l'enfance depuis 3 ans. On a des assistantes familiales, donc c'est des familles d'accueil, qui sont amenées à devoir accueillir des enfants qui n'ont pas forcément, entre guillemets, le profil d'enfants qui pourraient être accueillis en famille d'accueil, et qui se retrouvent elles-mêmes en difficulté. Et nous, travailleurs sociaux, j'ai entendu tout à l'heure que la norme communément admise en Seine-Saint-Denis, c'était environ 28 à 35 enfants par travailleur social. Aujourd'hui, la norme qui est acceptée par l'employeur, c'est-à-dire par le département du Nord, c'est 39 enfants par travailleurs sociaux. Parfois c'est plus, et notamment sur les secteurs de Roubaix-Tourcoing, où nos collègues sont en grève depuis maintenant un petit mois, et qui revendiquent alors pas du salaire, pas des vacances, mais qui revendiquent tout simplement les moyens de pouvoir continuer à accompagner les enfants dignement, etc. Par exemple, je vais vous donner un exemple, hein, on a des enfants qui devraient être mis en sécurité, notamment, j'ai encore cet exemple d'une adolescente sur Tourcoing qui, faute de place, a été orientée à Emmaüs, donc dans un CHRS. Donc ça veut dire qu'on considère que des enfants qui sont censés être, qui devraient être protégés en tant que mineurs, avec un aspect de vulnérabilité, s'on retrouve dans des foyers de type accueil SDF. Et on a aussi un problème dans la prise en charge des mineurs non accompagnés, dans ce qu'on appelle les enfants sans papier, qui, dans le Nord, qui poussent les tarifs vers le bas, obligent certaines structures à accueillir des enfants sans papier, avec des prix de journée qui sont à ras des pâquerettes.
Très bien. On a entendu votre témoignage, réaction de Thierry Barranger. Vous ne semblez pas surpris parce que...
Je ne suis pas surpris, sauf que la situation en Seine-Saint-Denis n'est pas la même. C'est quand même un département qui a un des plus gros budgets de protection de l'enfance, après Paris. Et la question n'est pas les structures d'accueil. Il n'y a pas eu de baisse des structures d'accueil concernant les mineurs. La question, c'est que le nombre de placements est plus important que le nombre de mesures d'accompagnement, puisque le juge des enfants, normalement, est censé, d'après la loi, essayer, dans la mesure du possible, de maintenir l'enfant dans son milieu naturel, dans sa famille. Et la question, c'est que on a une proportion de placements, je pourrais vous donner les chiffres si vous le souhaitez, qui est plus importante en Seine-Saint-Denis que les mesures d'accompagnement dans la famille. Donc c'est un peu un problème un petit peu différent, me semble-t-il.
Question d'auditeur, alors à propos de l'aspect répressif de votre fonction de juge des enfants, on nous demande, est-ce que les infractions commises par des mineurs s'aggravent? Et si oui, pourquoi? Quelles sont les principales raisons qui expliqueraient cette aggravation? Magali Lavie-Badi, jeune juge pour les enfants.
Alors, je ne sais pas si par aggravation on doit entendre augmentation du nombre d'infractions ou aggravation de l'infraction en question. Est-ce qu'elles sont de plus en plus graves? C'est pas la même question. Moi, j'ai que 2 ans de fonction. Ça fait seulement 2 ans que je suis magistrate et que je suis juge des enfants. Donc, je n'ai pas vraiment assez de recul pour pouvoir constater une aggravation. Peut-être que mon collègue, monsieur Barranger, peut préciser sur ce
point-là. Mais j'ai résumé. On a reçu quand même beaucoup de courriels faisant allusion à ces affaires récentes. Ce jeune homme qui braque une arme factice sur sa professeure. Ça s'est passé à Créteil. Il y a 24 heures, on apprenait à peu près le même scénario au Havre. Est-ce que ce genre d'infraction, ça devient beaucoup plus courant, beaucoup plus fréquent qu'il y a quelques années? Thierry Barranger.
Je pense que ce genre d'infraction est beaucoup plus médiatisé qu'il y a quelques années. Je prends un exemple. Il y a une époque où les suicides d'enfants, la presse n'en parlait pas. Et donc c'était aussi donc il y a un lien par rapport à ça. Alors bon, on dit régulièrement ils sont de plus en plus jeunes, ils sont de plus en plus violents, ils sont de plus en plus nombreux. Mon expérience de juge des enfants, elle ne correspond pas à ça, et les statistiques ne correspondent pas à ça. Je tiens quand même à rappeler que concernant les mineurs, le taux de réponse pénale aux actes des mineurs est quasiment en Seine-Saint-Denis de 97%, 96 ou 97%, alors que pour les majeurs, le taux de réponse pénale, alors mesure du parquet plus mesure de juge des enfants, n'est que de 85 ou 86%. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de réponse.
Réponse pénale à 97%.
Réponse pénale,
c'est non spécialiste, qu'on comprenne bien.
C'est-à-dire que à un acte de mineur, il y a une réponse judiciaire, qu'elle soit au niveau du procureur de la République ou au niveau des juges des enfants. Voilà, c'est ça. Mais autrement, je n'ai aucun élément au niveau statistique me disant qu'ils sont de plus en plus jeunes, de plus en plus violents et de plus en plus nombreux. Alors évidemment, la société a évolué. Le type d'infraction depuis 30 ans n'est plus le même. Maintenant, il y a des infractions à partir d'Internet, à partir des réseaux sociaux, ce qu'on ne voyait pas avant. Mais c'est surtout les modalités des infractions qui changent. Et puis aussi, le retour médiatique de ces infractions.
Sophie Parmentier.
Oui, pour compléter les propos de Thierry Barranger, j'ai quelques chiffres sous les yeux, par exemple, concernant les mineurs mis en cause par motif d'infraction en France. Si on prend les mineurs qui avaient été mis en cause pour vol en 2010, ils étaient plus de 88 000. 2017, 73 000. C'est les derniers chiffres que j'ai. Ça veut dire une baisse de 17%. Baisse également sur le trafic de stupéfiants. De nombreux mineurs qui se retrouvent devant les juges des enfants qui sont là devant nous au tribunal pour enfants de Bobigny sont par exemple poursuivis pour stupéfiants, également pour défaut de permis. Il faut préciser aussi peut-être que pour les crimes, pour les viols, eh bien c'est une, un juge d'instruction qui est aussi nommé. Peut-être que les juges peuvent en parler. Peut-être vous pouvez rappeler aussi ce que risquent les mineurs. Comment fonctionne cette justice des mineurs qui est quand même basée sur l'ordonnance de 1945 avec une doctrine extrêmement particulière.
Qui veut répondre? Magali Lavie-Badi, juge des enfants à Bobigny.
Alors, je vais essayer de répondre à cette question en étant assez claire, puisque en réalité, c'est très complexe. En France, les mineurs qui commettent des infractions sont responsables pénalement. Il n'y a pas de limite d'âge, il faut juste que le juge s'assure que cet enfant, ce mineur, était doué de discernement au moment où il a commis les faits qui lui sont reprochés. Si on estime que c'est le cas, qu'il était doué de discernement, on peut alors le poursuivre, le juger, le condamner. Mais ensuite... le juge qui va être saisi et également les sanctions, les peines qui peuvent être ordonnées vont dépendre de l'âge de ce mineur. Donc la première précision, puisque vous avez parlé de crime et de juge d'instruction, c'est qu'effectivement, pour tous les crimes, c'est non pas un juge des enfants, mais un juge d'instruction qui va être saisi. En revanche, pour les délits, c'est un juge des enfants qui fait office de juge d'instruction et qui va lui-même instruire l'affaire. Ce que je peux préciser qui est important, c'est que en dessous de 13 ans, un mineur en France ne peut pas être condamné à une peine. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être condamné à une peine de prison ni à une alternative à la prison. Il ne peut être condamné qu'à une mesure éducative. À partir de 13 ans, un mineur peut être condamné à une peine de prison. Et à partir de 16 ans, il peut même être condamné à une peine qui peut être égale à celle d'un majeur, mais c'est une exception puisqu'en principe, la peine encourue par un mineur est forcément diminuée de moitié par rapport à la peine encourue par un majeur.
Vous parlez de mesures éducatives, moi je me tourne vers Nathalie Bouillet. Donnez-nous des exemples de mesures éducatives, une mesure qui peut remettre dans le bon chemin un jeune égaré.
Donc plutôt un adolescent.
Oui.
Vous auriez envie d'un exemple d'adolescent.
Oui. Mesure éducative, oui. On emploie cette formule, oui. Mais oui. Concrètement, c'est quoi?
Alors, c'est une mesure qui permet effectivement, un exemple d'adolescent qui s'est déscolarisé, dont les parents sont bien en peine pour le remettre sur le chemin de l'école, qui sont en difficulté pour faire face au comportement de leur enfant sur la question de l'autorité, mais aussi sur les questions même de prise en charge.
Qu'est-ce qu'on fait alors?
Alors, on le rencontre régulièrement. On essaye de nouer une relation avec lui. Quand on est éducateur, avec auprès d'un adolescent en difficulté, on cherche à le rencontrer. Parfois, on met beaucoup de temps pour ça parce que parfois il faut aller jusqu'à son domicile ou là où il est pour essayer de le rencontrer. Et on noue une relation avec lui qui nous permet de lui proposer un certain nombre de choses, essayer de le remettre un peu sur la voie de socialisation, de l'orientation professionnelle, parce que souvent quand il a arrêté l'école. Voilà, c'est ça le travail d'un éducateur auprès d'un adolescent, et d'aider ses parents à prendre conscience des difficultés que traverse cet adolescent. Et ensuite, on reçoit régulièrement et l'enfant et ses parents ensemble pour faire circuler un peu les choses entre les parents et l'adolescent lui-même et essayer de reconstruire un lien apaisé entre l'enfant et ses parents. Voilà, c'est ça le travail concret d'un éducateur et de psychologue, puisqu'il faut préciser que c'est aussi avec les psychologues que ça se fait, ce travail-là.
Voilà, c'était Nathalie Bouillet, je rappelle, qui est une des responsables de l'association Vers la vie pour l'éducation des jeunes en Seine-Saint-Denis. Au téléphone, Alice est à Paris. Bonsoir Alice.
Alice. Oui, bonsoir.
Bienvenue sur l'antenne, nos invités vous écoutent.
Oui, je suis psychologue clinicienne et je travaille depuis plusieurs décennies sur ces questions de protection de l'enfance dans les différents services et différents départements. Je trouverais dommage d'associer systématiquement la question de l'assistance éducative, la protection de l'enfance, à la question des délits. Effectivement, et bien sûr qu'il y a des adolescents qui sont en difficulté, qui commettent des fautes, mais quand nous reprenons l'itinéraire de ces adolescents, dans une grande partie, un grand nombre de situations, ce ce sont des enfants qui ont eu des parcours extrêmement chaotiques. Et souvent, nous apercevons que où les diagnostics n'ont pas été posés précocement, les aides à la famille n'ont pas été apportées en temps voulu, et éventuellement avec des prises en charge incohérentes. Et je crois qu'il est vraiment, il faut vraiment mettre l'accent sur les besoins des départements, sur les besoins des professionnels des départements pour assumer leurs fonctions dans le cadre de la protection de l'enfant. Et les économies qui sont faites actuellement dans le cadre de la protection de l'enfant sont d'autant plus dommageables que nous savons que ne pas nous occuper d'un enfant, c'est effectivement nous retrouver avec des adolescents en très grande difficulté. Éventuellement, ils vont aller nourrir les hôpitaux psychiatriques ou remplir les hôpitaux psychiatriques ou les prisons d'équivalent. Et alors que nous avons les moyens, nous savons sur le plan théorico-clinique, nous sommes un des pays qui savons le mieux prendre en charge ces enfants. Les travaux, nous les connaissons, la clinique, on la connaît. Simplement que les moyens ne suivent pas. Et nous savons aussi que lorsque nous prenons un enfant en charge correctement, convenablement, lui apportant de la sécurité, de la stabilité, alors qu'éventuellement c'est ce qu'il n'a pas trouvé dans son milieu familial, ce sont des enfants qui deviennent des adultes tout à fait ordinaires dans la vie, et nous en avons, toutes les études le montrent.
Alice, merci beaucoup d'avoir témoigné. Réaction à ce témoignage, Thierry Barranger, président du tribunal pour enfants de Bobigny.
Oui, moi je partage tout à fait ce qui vient d'être dit. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on oppose la science éducative à la question des mineurs délinquants, puisque la spécificité du système français, c'est justement d'avoir les deux cas et que la science éducative, c'est aussi la prévention d'une future délinquance. Donc en fait, je vois pas du tout l'opposition par rapport à ça. Les deux versants sont nécessaires. Et si en effet on ne peut pas traiter en science éducative, on ne peut pas traiter en prévention par rapport à la délinquance. Je rappelle quand même que la question de la protection de l'enfance est intervenue 20 ans après l'ordonnance du 2 février 45 sur la délinquance, c'est-à-dire que les éducateurs qui intervenaient se rendaient compte qu'il fallait aussi aborder les choses sur la question du volet assistance éducative, protection de l'enfance. Et donc ça a été la conséquence. Donc par rapport à ce qui est dit, je crois qu'il n'y a pas de séparation, au contraire.
Alors il y a... Oui,
ce sont les mêmes mineurs.
Magali Lavie Abadi, juge pour enfants.
En réalité, ce qu'il faut entendre, je pense, et ce qu'il faut dire pour nos auditeurs, c'est que ces mineurs délinquants, ce sont les mêmes que les mineurs en danger. C'est justement parce qu'on ne les a pas assez bien protégés en amont, d'abord quand ils étaient petits et qu'ils ont subi, par exemple, des violences intrafamiliales, qu'ensuite ils deviennent eux-mêmes violents. Donc c'est pour ça que nous on a écrit ce texte, et pour expliquer qu'il faut nous donner les moyens pour agir en protection de l'enfance, pour éviter ensuite des passages à l'acte délinquant. C'est totalement lié.
Alors, vous avez écrit dans cette tribune que vous manquiez de moyens. Ce matin, sur France Inter, la garde des Sceaux, Madame Belloubet, était là. Elle a répondu à ce texte en disant, je résume, hein, mais c'est du ressort du département. L'État fait son travail. C'est au département d'aider, de fournir les moyens aux juges des enfants d'appliquer les mesures qu'ils préconisent pour sauver, pour protéger des enfants. Que pensez-vous de cet argument, Thierry Barranger?
Alors, si vous avez bien lu notre texte, nous n'avons pas voulu nous prononcer sur la question de responsabilité des institutions. La loi, depuis qu'il y a une loi de décentralisation, c'est vrai que ce sont les départements qui doivent financer les mesures d'accompagnement en milieu ouvert, c'est-à-dire dans la famille, des enfants. Que l'État, lui, intervient sur les mesures éducatives pénales et sur aussi les mesures d'évaluation des situations, ce qu'on appelle, sous un mot un peu bizarre, MJE, mesures judiciaires d'investigation éducative. Mais la question, c'est que le fait de la dépense, en effet, qui est obligatoire pour le département sur les mesures ordonnées par le juge des enfants, a un contrepoids. C'est-à-dire que c'est lié à la décentralisation, mais il est aussi dit dans les textes que le préfet peut inscrire d'office les dépenses obligatoires des mesures ordonnées par le juge des enfants dans le budget départemental. Donc je crois que le problème problème, c'est pas de se renvoyer la balle par rapport à ça. C'est vrai que le contexte actuel, c'est quand même notamment les mineurs non accompagnés qui sont de plus en plus importants, puisqu'on est quasiment sur des chiffres de 11 000 en France, et que les départements disent que c'est, de leur point de vue, une mission régalienne, oui, donc de l'État, mais ça embolise aussi leurs moyens au niveau des autres enfants.
Et les départements peuvent dire aussi, nous vivons actuellement des restrictions budgétaires, des dotations de l'État que nous ne recevons plus, et donc on ne peut pas suivre.
C'est bien pour
aider
ça qu'on
n'a
pas
la
voulu. C'est bien pour
enfants.
Ça qu'on n'a pas voulu trancher. C'est pas à nous de trancher le problème. Nous, ce qu'on dit, oui, c'est que on met des mesures et ce sont des mesures fictives puisqu'elles ne sont pas financées.
Voilà. C'est bien le problème, c'est que par exemple en Seine-Saint-Denis, il y a 900 familles actuellement qui sont en difficulté. Les enfants sont en danger. Il y a donc les juges là devant nous qui ont pris des mesures d'assistance éducative pour ces enfants et il faut attendre jusqu'à un an et demi pour qu'un éducateur puisse s'occuper de ces enfants qui peuvent être victimes peut-être de carences affectives, de négligence dans les soins dans leur famille. Et donc bien sûr c'est le département qui doit financer les éducateurs et en fait il n'y a pas assez d'éducateurs et de moyens et on peut imaginer, comme le disait Thierry Barranger, que l'État augmente ses dotations en fait pour faire face à ces difficultés dans ce département le plus pauvre de France où l'argent, c'est difficile d'avoir tout l'argent nécessaire alors qu'il y a également énormément de mineurs non accompagnés. Face à cette situation, le texte des juges qui n'attaque personne et qui n'attaque pas la ministre de la Justice dit quand même que dans ce cas de figure, oui, l'État doit pouvoir réagir.
Alors il y a des questions un peu polémiques sur le site de l'émission. Jacqueline, faut-il revoir l'ordonnance du 2 février 45 sur la justice pénale des mineurs? Estimez-vous qu'un ado de 14 ou 15 ans en 2018 n'a rien à voir avec un ado du même âge en 1945? Et puis, que répondez-vous à ceux qui disent que vous, juges des enfants, ne punissez pas suffisamment, que vous favorisez le sentiment d'impunité chez les mineurs? Magali Lavibadi, jeune juge des enfants.
Bien, écoutez, moi, je vais répondre simplement à cette question. Les juges des enfants sont là pour appliquer la loi. Et l'ordonnance de 45 concernant les mineurs délinquants, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que le juge doit toujours favoriser en premier lieu une réponse éducative. Donc, effectivement, dans les cas qui s'y prêtent, à savoir des mineurs qui sont très jeunes, je l'ai dit tout à l'heure, en dessous de 13 ans, on peut pas condamner à une peine, ou pour des infractions que l'on juge moins graves, ou pour des mineurs qui sont primo-délinquants, c'est-à-dire qui commettent pour la première fois une infraction, oui, le juge des enfants va favoriser une mesure éducative, mais c'est ce que prévoit la loi. Le juge est là pour appliquer la loi. En revanche, pour d'autres situations, pour des mineurs qui sont multirécidivistes, ou pour des mineurs plus âgés, ou pour des mineurs qui commettent des infractions graves, il arrive très régulièrement, à Bobigny notamment, qu'un mineur puisse être incarcéré.
Thierry Barranger?
Oui, je crois que malheureusement, cette idée d'impunité de justice laxiste est complètement fausse et ne correspond pas à la réalité. D'autant plus qu'on a eu un taux actuellement d'incarcération qui est bien au-dessus du taux qu'il y avait pendant les 10-15 ans passés. Donc je veux dire, je crois qu'on répond et je renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur le taux de réponse pénale pour les mineurs par rapport aux majeurs. Je crois que c'est aussi la principale réponse qu'on peut apporter à ce discours sur l'impunité et le laxisme des magistrats.
Sophie Parmentier. On peut juste dire qu'il y a 800 mineurs détenus aujourd'hui en France, et ce qui est un chiffre énorme et en effet en augmentation. Donc la justice des mineurs laxistes, c'est vrai que ça colle pas du tout avec ce chiffre, 800 mineurs incarcérés sur à peu près une population de 70 000 personnes incarcérées en France.
Martigues, Anne nous écoute et souhaite participer à notre émission. Bonsoir Anne, bienvenue.
Bonsoir.
On vous écoute.
Voilà, alors moi c'était juste pour, je dirais, apporter une réflexion et un témoignage. Ça fait donc plus d'une quinzaine d'années que je suis principale en collège, puis proviseur également en lycée. Et donc depuis une quinzaine d'années que je fais ce métier, si vous voulez, ce que j'observe, ce que j'analyse, c'est que pour nous, il est extrêmement difficile de pouvoir vraiment avoir un travail de partenariat de qualité avec les juges pour enfants notamment, alors que nous nous rendons compte dans l'éducation nationale qu'en établissement scolaire, nous avons fait ce travail de partenariat avec la police nationale sur l'ensemble des territoires en France. Et c'est un partenariat qui est de qualité, qui se développe, qui est utile pour à la fois la police et à la fois pour l'éducation nationale. Et donc, à travers l'éducation nationale, principaux, proviseurs et enseignants, CPE, etc.
Mais Anne, pourquoi ça ne marche pas avec les juges des enfants?
Oui, le partenariat avec la justice et notamment les juges pour enfants.
Mais pourquoi vous n'arrivez pas à mettre en place ce partenariat?
Parce que concrètement, pour des cas que moi j'ai en mémoire, il est impossible de les avoir, de les joindre, d'échanger, d'apporter l'expérience que nous avons en établissement pour ces enfants, leurs familles, etc. Nous connaissons ces familles et ces fratries, souvent depuis plusieurs années. Nous savons un certain nombre de choses. Nous savons que parfois l'enfant ou le jeune ne va pas bien pour des raisons X, Y, Z. Et il est impossible pour nous d'avoir un échange, un travail, un partage d'informations. On n'arrive pas à le faire parce que concrètement, ils ne sont pas joignables. Nous connaissons leur complexité professionnelle, mais moi, je n'ai jamais en 15 ans réussi vraiment à me mettre autour d'une table pour échanger sur des cas concrets, chose que j'ai pu faire avec les commissariats, les commissaires, les policiers dans les villes dans lesquelles j'ai exercé.
Merci Anne-Thierry Barranger.
Oui, je suis un petit peu surpris de ce que j'entends parce que en Seine-Saint-Denis, les échanges institutionnels, tant avec l'éducation nationale qu'avec les autres institutions, ont lieu régulièrement et il y a, même avec le parquet, avec l'éducation nationale est en lien avec le parquet très régulièrement. Donc je comprends pas très bien.
Nathalie Bouillet, vous avez des contacts, vous, avec le monde éducatif, avec les collèges? Quand il y a des problèmes, on vient vous voir, on a besoin de votre aide. Là, il y a un contact.
Alors, moi, je trouve que pour le coup, ce sont nos partenaires privilégiés. C'est-à-dire que, d'abord, ce sont souvent les premiers signalants. Je veux dire, l'école, les maîtres, les instituteurs, les professeurs des écoles sont souvent ceux qui repèrent les enfants en difficulté. Je veux dire, donc, ce sont nos premiers interlocuteurs dès lors qu'on exerce une mesure éducative, dès lors qu'on exerce un accompagnement éducatif, on se met en lien avec l'école et on essaye bien sûr d'avoir un lien, une relation aussi de qualité avec eux. Je suis aussi assez étonnée parce que pour moi, le partenariat direct, en plus juge des enfants, professeur des écoles, en effet, n'existe pas de façon... Enfin, ça me paraît assez évident qu'il faut des intermédiaires, que ce serait pas possible pour les juges d'être en lien avec toutes les écoles du département.
Mais par contre, l'institution tribunal pour enfants est en lien avec l'éducation nationale, comme l'institution parquet est en lien avec l'éducation nationale. Donc je suis très très surpris de ça.
Sophie Parmentier, il y a des réactions d'auditeurs aux chiffres que vous donniez à propos des jeunes qui sont incarcérés. On nous demande quel type de prison, quel type de centre, comment se passe cette... détention.
Bah, peut-être sans doute que les juges des enfants en parleront mieux que moi, mais il y a différents établissements. Il y a des établissements spécialisés pour les mineurs. Il y a aussi des quartiers mineurs dans les prisons. Mais je vous laisse peut-être Magali Lavibadi expliquer comment tel jeune peut se retrouver incarcéré dans tel établissement. Il y a aussi les centres éducatifs fermés. Est-ce que vous pouvez expliquer les différences?
Alors, vous avez bien répondu à la question. Effectivement, en ce qui concerne la détention, donc la prison, il existe deux structures principales. La première, c'est l'établissement pour mineurs. Donc, en fait, c'est une prison dans laquelle il va y avoir que des mineurs. C'est une prison spécialisée pour mineurs, mais ça reste une vraie prison. Et sinon, il peut y avoir des quartiers mineurs à l'intérieur d'une prison. Donc, par exemple, concernant le tribunal pour enfants de Bobigny, en général, les mineurs qui sont incarcérés vont aller dans le quartier mineur de la maison d'arrêt de Villepinte, mais ils peuvent également aller dans le quartier mineur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis ou à l'établissement pour mineurs de Porcheville. La différence entre la prison et le centre éducatif fermé, c'est que le centre éducatif fermé, comme son nom l'indique, ce n'est pas une prison puisque c'est un foyer éducatif, c'est l'étape avant la prison quand on espère que ce mineur ne sera pas incarcéré.
Merci à nos invités Thierry Barranger, Magali Lavibadi, Nathalie Bouillet et Sophie Parmentier. C'était le téléphone sonne.